Ils viennent du Canada, d'Inde, de Suisse, de France, d'Espagne. Ils viennent du Maroc, évidemment. La liste est très longue. Des chercheurs, des artistes, des scientifiques, des musiciens. Tous en rendez-vous en ce moment pour le Festival de la Culture Soufi. C'est à Fès et c'est jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Beaucoup de cinéma dans ce bain de culture. Nous allons évoquer la programmation. C'est en ce moment là aussi à la Cinémathèque de Tanger, l'ACID, un programme qui aide les jeunes réalisateurs à proposer leur premier film, souvent à le distribuer. L'ACID fait sa tournée entre France, Maroc, Portugal et Espagne. Idir Serguin est réalisateur. Il a fait le détour vers Tanger. On va le retrouver dans un instant. Des femmes, des réalisatrices, des comédiennes, des journalistes, des pays en guerre, en Syrie, en Algérie, en Centrafrique. Elles sont là, debout, à l'honneur, au cinéma notamment. Cette semaine, films de fiction ou documentaire, vous les entendrez dans un instant. Nous sommes ensemble pendant une heure.
Midi, un bain de culture avec Florence Blanc. Culture, le festival.
Change. changement radical d'ambiance musicale sur Mehdi 1 pour accompagner le lancement du Festival de Fès de la culture soufie. C'est la 12e édition cette année sur le thème de la culture soufie, un humanisme spirituel pour notre temps. Le soufisme qui prend, on le sait, des chemins de traverse à travers la peinture, la calligraphie, les chants, la musique, les livres, évidemment un très vaste domaine où les artistes, tous les artistes, puisent leur mode d'expression. Nous allons, dans ce bain de culture, évoquer cette 12e édition qui a commencé ce samedi. Pour nous en parler, Fawzi Skali, c'est le président du Festival de Fès de la culture soufie.
C'est un patrimoine d'ailleurs d'une immensité absolument extraordinaire, mais simplement, on ne se rend pas compte de cette richesse. Lorsqu'on parle de soufisme, on a des idées parfois toutes faites et on ne se rend pas compte de la richesse de ce patrimoine-là sur le plan poétique, sur le plan littéraire, sur le plan artistique, sur le plan philosophique, bien sûr, et sur le fait qu'il s'agit d'un patrimoine vivant et donc qui est capable de renouveau, de créativité, et finalement de nourrir une pensée actuelle. Et c'est pour cela que chaque année, dans la Médersa de la Bouanania, ce lieu magnifique du 14e siècle, eh bien, il y a une pensée actuelle. Des personnes qui viennent du monde entier, des conférenciers de différentes disciplines, qui viennent aborder des questions qui sont au carrefour entre la spiritualité et la raison et le savoir. Finalement, la réflexion philosophique, si je puis dire. Il y a des expressions de cette culture aussi bien à Java qu'en Afrique noire, que dans les Balkans, que à travers les grandes œuvres du soufisme qui sont des œuvres universelles, quelque chose d'extrêmement important. Mais d'une façon assez curieuse, on n'arrive pas à prendre conscience de l'ensemble de cette matrice culturelle du soufisme et le festival a pour but de la rendre perceptible, en l'occurrence pour les jeunes générations, mais enfin pour tout le monde, parce qu'il s'agit d'une très très belle et très profonde culture, et qui porte aussi des valeurs d'humanisme, par exemple aussi de la valorisation de l'archétype du féminin, ce qui est très important dans la poésie soufie, et cela n'est pas sans conséquence sur la représentation que l'on a de la place et du rôle des femmes dans nos sociétés. Se me da mi uji, te pase y no me hable, si yo no como ni bebo. C'est un peu un hommage à l'Andalousie, mais aussi à un grand poète andalou, un poète soufi, un prince qui s'est tourné vers le soufisme et qui est devenu une sorte de poète itinérant. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Troubadour et qui a voyagé à Saint-Chisteri. Donc c'est pour cela qu'il y a une création qui va tisser entre la référence à l'Andalousie à travers François Atlan et Porro Pignana, ce répertoire très spécifique au soufisme qui est encore chanté dans les veillées soufis jusqu'à aujourd'hui, qui est chanté, qui sera représenté par le grand chanteur du Sama Soufi de Fès, de Marwan Hashi, accompagné par une musique andalou. Que deja que te mire la cara y el pie,
la cara y el pie, que deja que te mire, Rosita.
Fawzi Skali sur Média, président du Festival de Fêtes de la Culture Soufi. C'est la 12e édition. C'est jusqu'à samedi prochain. Au programme, au menu, concerts, rencontres, notamment cet après-midi hein, sur le soufisme et l'art de vivre. Ça se passe à la Medersa Bouanania à Fès. Toutes les infos, parce que c'est un programme évidemment très dense, foisonnant. Toutes les infos sur leur site festivalculturesoufi.com.
Bain de culture avec Florence Blanc.
Aren't you something to admire? 'Cause you shine at something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always very loud on the other side. 'Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. Cause it doesn't seem really as simple, and I can't help but stare, 'cause I see truth somewhere in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. 'Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your head on the path, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me, but they can see the set in my heart. There's a space and now you're home. Show me how to fight for now. I tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You were right.
Direction Tanger au Maroc maintenant, la Cinémathèque sur la place du Grand Soko, le RIF avec le tapis rouge déroulé au film de l'Acide. C'est l'association pour le cinéma et sa diffusion, une association qui nous fait découvrir depuis longtemps des films de tous horizons. Pour en parler, nous sommes avec le coprésident de l'association.
Bain de culture, cinéma.
Idir Sergine, bonjour.
Bonjour.
L'ACID, c'est l'Association pour le cinéma indépendant et sa diffusion. L'ACID, on en parle beaucoup, quand il y a le Festival de Cannes, mais pas que. C'est une association qui existe depuis plus de 25 ans maintenant, vous allez me dire si je me trompe, et qui en tout cas expose les films, les accompagne pour rencontrer le plus large public possible. Vous faites donc une tournée, vous avez été en France, vous allez aller au Portugal, vous êtes au Maroc, à Tanger en ce moment. 4 films sont proposés. Qu'est-ce que vous, en tant que réalisateur, cinéaste, vous êtes coprésident donc de l'ACID, vous prenez un petit peu votre bâton de pèlerin?
C'est exactement ça. Oui, donc là, oui, vous n'êtes pas trompé, l'ACID, ça existe depuis plus de 25 ans. C'est une association de 150 cinéastes et on se bat au quotidien toute l'année pour montrer des films indépendants, audacieux dans leur forme artistique, créative. On s'empêche pas d'aller chercher des films autoproduits, on travaille à aller chercher aussi beaucoup de premiers films. On se bat aussi pour montrer des films qui n'ont pas de distributeur, et parce qu'on les montre à Cannes, par exemple, ils trouvent un distributeur, ça c'est la vitrine cannoise. Mais on travaille aussi tout le long de l'année à montrer des films partout sur le territoire français, partout dans le monde, là où on est accueilli. Et on le fait avec le plus grand plaisir, mais c'est un combat quotidien.
Alors vous dites que c'est un combat quotidien, on sait que c'est difficile, les circuits de distribution, d'abord le circuit de production. Vous sélectionnez combien de films par an ?
Alors, on a deux moments d'intervention. Donc il y a le moment cannois où on montre 9 films, et tout le long de l'année, on est sollicité par des productions et des distributeurs qui nous demandent un soutien, parce qu'on travaille aussi en France avec un réseau de 400 salles adhérentes, et on initie plus de 3000 projections et 450 débats.
Alors c'est vrai que les chiffres, en tout cas quand vous les dites comme ça, c'est assez impressionnant. Et on sait quel est le travail énorme qui est fait avant. Par exemple, quand vous arrivez dans des petites villes, moyennes villes, parce que c'est là où vous essayez de trouver aussi le public, de les faire venir dans les salles. C'est un travail, vous dites, de tous les jours, de chaque année. Et est-ce que les films que vous présentez après ont des vies comme ça, ou puisque vous les accompagnez pour les distribuer, pour les faire voir à différents publics, est-ce que ça marche à tous les coups ?
Ça marche d'une certaine manière à tous les coups. Alors, c'est peut-être pas forcément stupéfiant en termes d'entrée, quoique on a toujours tous les ans de très belles surprises. Mais nous, pour nous, ce qui est important, c'est que les films soient vus partout, par tous, par le plus jeune public. En fait, on sort un peu du circuit économique classique où en fait un film a une durée de vie en moyenne d'un mois. Nous, on travaille sur la continuité. Donc, en fait, nous, les films continuent à vivre plusieurs semaines, plusieurs mois, ce qui permet en fait d'avoir des chiffres publics beaucoup plus importants que si on avait suivi la mécanique habituelle qui consiste à montrer un film, le faire disparaître dès qu'il y a moins de spectateurs dans les grandes villes. Donc, en fait, au résultat, pour nous, c'est toujours positif, d'autant plus que comme on travaille à l'éducation à l'image auprès des jeunes publics, on prépare le public de demain. Et puis par ailleurs, c'est aussi un endroit où des jeunes cinéastes prennent leur envol. Tous les ans, se révèlent des cinéastes qui, l'année d'après, sont en compétition, les années suivantes sont en compétition dans les plus grands festivals, en compétition officielle comme à Cannes, à Berlin, à Venise, Toronto, etc.
Nous n'attendons plus rien de la société telle qu'elle va. Dans un ciel sans repère, nous cherchons de nouvelles couleurs. Des futurs multicolores nous attendent.
Un jour, tout ça va sauter.
Vous avez été dans différentes villes en France, grandes villes, moyennes, et vous arrivez sur le continent africain. Petite étape à Tanger, vous êtes allé au Portugal, à Lisbonne, vous allez ensuite à Porto, je crois, et à Belgrade. Qu'est-ce que vous faites pendant ces séances ? On va parler de Tanger, bien sûr, vous êtes à la Cinémathèque, vous allez présenter 4 films. Je vais les noter, c'est Rêves de jeunesse, Solo, Congo, Des hommes, il y a des documentaires, il y a des films français, il y a un film argentin, un autre Congo, film en tout cas qui nous emmène en Afrique. Qu'est-ce que vous venez dire à Tanger avec 4 films comme ça, un éventail de propositions divers ?
Disons que montrer les films comme ça un peu partout dans le monde, ça nous touche particulièrement de pouvoir le montrer à Tanger. C'est une manière de montrer l'éclectisme en fait de notre programmation. C'est aussi une main tendue vers tous les cinéastes au Maroc pour leur dire qu'on a le courage et l'audace de montrer les films, quelle que soit leur forme en fait en réalité, et qu'on n'est pas justement qu'on sort un peu des gros canons de production et des modèles créatifs qu'on trouve nous parfois un peu désuets. Donc c'est à la fois une main tendue vers les cinéastes, une main tendue aussi vers le public, puisque durant le cadre de cette programmation à Tanger, je vais être là, je vais être présent et discuter avec le public qui pourra me poser toutes les questions
qu'ils souhaitent me poser, j'y répondrai avec le plus grand plaisir, parce que c'est aussi ça la suite, c'est aussi un moment de rencontre, et aussi c'est une manière de fidéliser aussi un public. Enfin, voilà qui se passe. On travaille aussi beaucoup sur l'affectif, parce qu'on pense qu'il y a des tissus, des liens à recréer, et ça se passe aussi en étant présent auprès du public, dans les salles.
Je sais que vous faites beaucoup, beaucoup de rencontres. Il y a des publics très différents, hein, entre Paris, Lyon, la Corse et maintenant Tanger et le Portugal. À chaque fois, c'est un plaisir partagé. Le public qui vient vous voir est assez jeune, j'imagine.
Oui, on travaille à ça, mais pas que. Hein, mais on ferme la porte à personne. On propose à tout le monde de venir voir nos films. C'est particulièrement vrai, là, par exemple, des 4 films qu'on va pouvoir présenter, qui sont tous très, très différents, qui travaillent des questions esthétiques, politiques, cinématographiques, toutes différentes, très riches, très audacieuses, très étonnantes, et puis aussi très émouvantes. C'est important que tout le monde soit présent pour pouvoir ces films.
Alors, un marathon de présentation qui va se terminer ce dimanche, en tout cas à Tanger pour vous. Vous allez présenter Des Hommes, c'est un film, un documentaire qui nous emmène en prison, à la prison des Baumettes à Marseille. Quand on dit Baumettes, souvent en France, on sait exactement à quoi s'attendre. Mais là, c'est un regard très différent, esthétisant aussi sur cette prison. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur ce film que vous allez présenter dimanche ?
Qu'est-ce que tu as, mon frère ? Je me marie quand je sors, ma femme est lancée. Et tout le sang. Eh oui, mon bébé. Voilà. Ouais. Eh, il travaille sur les bateaux, mon frangin. Oh là. Et qu'est-ce que tu as, mon pote? Moi, je vendais du shit, fais où je suis. Ah, c'est ça, mon frère. Tu joues.
La prison des Baumettes, c'est pas une prison anodine. Elle est très, très connue. Enfin, il y a toute une mythologie autour de ce lieu d'incarcération. Ce qui nous a, nous, particulièrement touchés dans ce film, c'est justement, vous parliez d'esthétisation. C'est justement ce parti pris-là qui nous a plu. C'est-à-dire que, évidemment, c'est des parcours de vie, des individus, des hommes, en l'occurrence, qui sont frappés par la misère, qui ont commis des délits. Les deux cinéastes, puisque c'est une co-réalisation, se sont efforcés justement de ne pas porter un regard misérabiliste sur ces gens, et au contraire d'en saisir leur humanité, en saisir leur beauté, paradoxalement, par un souci du travail visuel, par un usage de la musique très étonnant. Et tout à coup, on se surprend à être pris d'affection, à dépasser le simple. Enfin, c'est juste cette idée que ce sont des prisonniers. Enfin, c'est vraiment un regard sur des vies particulièrement touchant. Et ça casse un peu les lieux communs qu'on peut avoir dans d'autres films ou dans d'autres documentaires sur la question pénitentiaire.
Voilà, donc Idir Serguine, on vous attend à Tanger, on vous attend ce soir à la Cinémathèque au RIF, donc sur la place du Grand Soco, pour présenter ce dernier film, donc Des Hommes. Auparavant, il y aura eu Rêve de jeunesse, Solo, Congo. Et ensuite, vous partez où ?
Ensuite, normalement, c'est Belgrade, si je ne dis pas de bêtises. Je sais que certains de mes camarades cinéastes partent en Corée.
Oui.
Donc la tournée n'est pas terminée. On sait aussi que certains d'entre nous vont au Mexique. Nous étions au Chili il n'y a pas très longtemps. On est en train d'étendre notre toile.
D'accord. En tout cas, merci. Voilà. Et puis bravo pour l'acide, voilà, que vous accompagnez
merci,
maintenant.
Merci beaucoup.
Ça fait 25 ans. Merci, Idir Serguine.
Merci beaucoup.
Idir Serguine sur Medi1, que vous pouvez donc rencontrer une dernière fois ce dimanche avec la présentation à la Cinémathèque. C'est dans l'après-midi, 17h, 19h. Vous avez rendez-vous avec deux films, Congo et Des Hommes, qui se passent, on vous le disait, à la prison des Baumettes à Marseille. Retour dans Bain de Culture, on s'est quitté sur du cinéma à Tanger. Eh bien, nous allons continuer. Elle avait un rêve, faire des études de journalisme dans une ville bouillonnante, foisonnante. Ouad El Khattab arrive à Alep, en Syrie. Elle a 19 ans, nous sommes en 2011, un an plus tard. Cette jeune femme va se retrouver face à l'horreur, l'indicible, une ville pilonnée sans relâche. Alep éventré, Ouad va s'armer d'une caméra, elle se met à le filmer, toutes les manifestations qu'elle suit évidemment de très près, assidûment. Elle va tomber amoureuse d'un jeune médecin, il s'appelle Hamza. Il travaille dans un hôpital qui va résister. Hamza, avec qui elle milite, avec qui elle rêve d'une Syrie libre, avec qui elle aura une première petite fille, Sama.
Sama.
نظام سوري خلفائه محاصريننا بحلب مدينتي حمزة كان واحد من 32 طبيب يلي ضلوا بحلب الشرقية. حمزة ورفقاتنا أسسوا مشفى، كنا عائلة.
أشو؟ في ضرب كتير اليوم؟
سما، أنا بعرف إنك عم تفهم شو عم بصير، بقدر شوف هالشي بعيونك. ما عم تبكي مثل أي طفل عادي.
Pour Sama, un film documentaire sorti la semaine dernière en France notamment. Pour Sama, le film a été présenté aussi la semaine dernière pour le prix Bayeux, Bayeux Reporter de guerre. S'en est suivi à la fin une ovation, 1500 personnes qui applaudissaient dans une salle où l'émotion était au rendez-vous. Wadel Kateb apparaît alors sur l'écran, elle est par liaison Skype, elle est à Londres, où elle vit maintenant avec ses deux filles. Elle acquiesce de la tête, souvent, longuement.
Merci.
Pour Sama, c'est ce film documentaire donc de Wadel Kateb, témoin chaque jour chez elle, que ce soit dans la rue, dans l'hôpital de son mari Hamza, témoin de ses 5 années de bombardement systématique de la ville de Alep en Syrie, témoin d'atrocités. La presse internationale est unanime, le Times titré il y a peu « Nous ne pensions pas que le monde laisserait faire ça ».
Midi, un bain de culture avec Florence Blanc.
Déjà vu quelque part, rafraîchissez-moi donc la mémoire. Extasié devant une toile de Vixen à Rome, Londres ou Rennes. Vous m'appeliez Étienne, cherchant le magicien et sa dose. New York, Café Reggio, je suppose. En plein cœur de l'ivresse, au milieu du chaos, accoudé à un bar, vous m'appeliez. Vous en avez de bonnes à Lisbonne, de Salas à Paname, Amsterdam. Était-ce une quille ou un glaçon, va savoir. Dans le noir, dans le ton, quel que soit l'abandon, pourvu qu'il soit le bon. Sur d'experts toboggans, vous m'avez vu glisser, vous y glisser avec délice. Certes. Oh, j'aime tout. Je veux goûter à vous. Oh, j'aime tout. Je veux me donner à vous. Avant que je m'en aille, avant mes funérailles, de la vie faire rivaille, avant que je m'en aille. Les flèches que Cupid ont mal décroché, mais tels que des haches dans le dos. Et si j'ai rampé tout en bas, j'ai surfé aussi tout là-haut. Hop, j'enchaîne. Du lever du soleil brûlé jusqu'au matin crème. Se frotter à tout ce qui bouge, de balanceuse en bouge. Non, je n'épargnerai ni moi ni personne. La fièvre n'est pas un nom mais un dû. Les provoques de cette foutue ville rendent de certains hyper hostiles. Mais moi j'avoue que ça me tend. Je n'ai pas le rouge au front, et je ne suis pas sur le flanc, et je ne suis pas si mauvais, non, je ne suis pas si maudit. 20 ans sans te voir, je m'allonge, j'abrège. Du lever du soleil briller jusqu'au matin grège. Avant que je m'en aille, jouer à qui perd gagne, et de la vie faire l'hiver. version des astres. Et tu viens avec moi faire la vie.
Cinéma sur Média 1, la sortie la semaine dernière en France de Papicha, le film de la réalisatrice Mounia Medour. Papicha, présenté à Cannes au printemps dernier dans la section Un certain regard. Il a d'ailleurs remporté le prix. Il vient de remporter aussi un autre prix, le prix Jeune au Festival du film arabe de Famec, c'est dans l'est de la France. Papicha, c'est l'histoire de Nejma, étudiante. Nous sommes en 1990 à Alger. Cette jeune femme vit en cité universitaire, mais voilà, elle passe son temps à dessiner des robes. Elle rêve en effet de devenir styliste, bref, d'habiller des jeunes femmes comme elle. La nuit, bien souvent, eh bien, elle se sauve de cette cité universitaire pour aller dans la discothèque la plus proche. C'est une boîte de nuit où elle vend ses créations aux papichas, aux jolies filles de Alger. Lina Koudri et Shirin Boutella tiennent les rôles principaux. Wassila et Nejma.
C'est quoi ces affiches ? Barka ma tlsaq fihom. Rayna nahdar ma3ak.
Douma sturu rouhkom chwiya bar khallouna mli problem.
Ndirou hijab nqad fi ddar. C'est ça ? Bnat, haba ndir un défilé. Vous allez défiler pour moi ?
Tu veux prendre une balle, c'est ça ?
Hit la classe, y'a le papicha.
Le film, il se passe dans les années 90 en Algérie. Mais ce qui se passe à ce moment-là, pendant cette période, c'est qu'il y a une montée de l'extrémisme, une montée des radicaux. C'est une période que les Algériens vont traverser pendant 10 ans et qui va faire 150 à 200 000 morts. Avec des attentats, des assassinats, des couvre-feux. C'était les moments où mon père devait se cacher, où il devait se déguiser parce qu'il fallait pas qu'il soit reconnu dans la rue, parce que comme c'était un homme un peu public, il fallait qu'il se cache.
Moi, j'ai ma grand-mère qui est donc autrichienne, qui se voilait pour aller faire ses courses. Elle ne voulait absolument pas partir, alors que vraiment, il y a eu devant leur porte, on est venu leur dire attention, ils arrivent pour vous.
Au-delà de tout ce que nous, on y a mis de personnel, il y a un devoir de mémoire, il y a un devoir de... dans les livres, à l'école, on ne parle pas assez de cette période. Moi, j'ai étudié en France, j'ai fait tout mon collège, mon lycée, ma fac en France, et c'est trop peu dit.
Papicha est donc sorti la semaine dernière en France, mais sa sortie a été annulée en Algérie, sans aucune explication des autorités.
Aujourd'hui, ce qui se passe, on ne sait pas du tout si c'est lié à la situation actuelle de l'Algérie ou si c'est parce que c'est des mesures de sécurité, donc c'est pour nous protéger.
Est-ce que c'est le contenu du film ?
Est-ce que
c'est l'image ? On ne sait absolument pas.
On n'a aucune réponse.
Vraiment. C'est encore plus frustrant du coup, de ne pas savoir pourquoi les Algériens ne peuvent pas voir un film qui parle d'eux, qui parle de leur survie, de leur espoir. Et c'est assez injuste, en fait.
Je suis hyper fière et contente de ce qui se passe aujourd'hui parce qu'on est quand même en train de vivre un truc assez fou.
C'est génial que le film fasse écho à ça, c'était incroyable. Quand on a su ce qui se passait le 22 février, on s'est dit « mais attends, le film venait d'être fini ?» Et on se disait « mais c'est pas possible, en fait, c'est un écho absolument incroyable et c'est beau. »
C'est vraiment beau. Nous, quand on montait les marches à Cannes, c'était un vendredi comme par hasard. C'était hyper fort parce qu'au même moment, les Algériens étaient dans les rues. On a eu des pancartes avec Papicha, vous avez la palme d'or de votre peuple.
C'est incroyable.
Et pour nous, c'était... Ouais, voilà, moi j'en ai pleuré ce jour-là. C'était la plus belle réussite. Enfin, c'était le plus beau cadeau qu'on ait pu nous faire. Donc oui, on se sent lié, évidemment, quand on fait un film comme ça.
J'avais besoin de participer à ces manifestations. Je suis rentrée deux fois, dont une le 8 mars, pour la journée de la femme. Donc c'était encore plus symbolique, sachant qu'on avait tourné ce film et que voilà, moi je suis sur les réseaux sociaux et à travers ça, j'ai envie aussi de me battre pour ma position de femme dans ce pays, sachant que j'ai commencé là-bas. J'ai été publique, je suis publique en Algérie, donc j'ai vraiment voulu leur montrer qu'une femme, ça avait le droit de choisir comment s'habiller, où aller, faire tout, enfin, être libre tout simplement de vivre sa vie comme elle l'entendait. Et c'était vraiment, je l'ai vécu en plein milieu, c'est extraordinaire en fait, c'est une force commune en fait, c'est un truc qui nous porte tous ensemble et on avance ensemble, c'est des vagues humaines, c'est absolument extraordinaire et en fait c'est l'espoir qui est extrêmement impressionnant. C'est l'espoir et on sent qu'ils ont envie de mieux, qu'ils ont envie d'aller de l'avant et de se battre, quoi. Mais de se battre avec le sourire, avec des fleurs. Il y a des images absolument incroyables qu'on a vues partout sur les réseaux sociaux.
On a appelé ça la révolution du sourire. C'est quand même beau. Moi, je suis bien ici. C'est pas facile, faut se battre, c'est tout.
Apicha, on va revenir sur la réalisatrice Mounia Medour. Celle-ci a fait toute sa scolarité en Algérie, une année de faculté en journalisme. Elle a 17 ans à peine, c'est en pleine décennie noire. Sa famille est alors obligée de quitter le pays. Son père est cinéaste, il a subi des menaces. Alors toute la famille va s'installer en région parisienne. Mounia Medour va réaliser tout d'abord des documentaires, mais c'est avec Papicha, long métrage en fait, qu'elle va raconter ce qu'elle et sa famille ont vécu dans les années 90.
Bain de culture, cinéma.
On est avec un personnage qui n'a pas peur, qui veut avancer dans la vie malgré le danger. Et pour moi, c'est typiquement les réactions que peuvent avoir des gens qui vivent dans des situations assez, assez difficiles où on peut perdre la vie du jour au lendemain.
Dans ce texte, Albert Jacquard explique que son objectif n'est pas de construire la société de demain, mais de montrer qu'elle ne doit pas ressembler à celle d'aujourd'hui. Et que vivre, ce n'est pas lutter contre les autres. Je répète. Et que vivre, ce n'est pas lutter contre les autres.
Scott,
je m'écoute.
C'est un groupe de femmes auquel moi j'ai appartenu, c'est une génération que j'ai connue et c'est une génération effectivement de cette période-là difficile qui avait cette envie très forte de continuer à vivre et c'est aussi une émancipation de jeunes femmes à travers la mode.
Et c'est un peu moi, c'est un peu aussi toutes les jeunes femmes de l'époque qui ont habité à cette période très dure de, la, de l'Algérie, puisque les femmes étaient des résistantes.
Malgré tout, on passera toujours debout, vive l'Algérie libre, abonnez des grilles.
Nous n'abandonnerons jamais, et c'est vrai que c'est tout à fait ça l'Algérie, c'est le courage de ces femmes, et c'est pour ça que j'ai eu envie de raconter ce film-là, avec, avec un point de vue très particulier, avec cette héroïne qui est Nejma, qui est aussi le symbole de toutes femmes algériennes qui ont résisté en Algérie, que ce soit pendant la guerre de libération ou pendant les années noires, et qui résistent encore aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'à travers ce personnage jeune, une papicha, ce qu'on raconte, c'est aussi cette résistance.
La réalisatrice Mounia Medour pour le film Papicha, le film qui a remporté, c'était au printemps dernier, le prix à Cannes dans la section Un certain regard. Il n'est pas sorti en Algérie comme prévu en septembre dernier. Une avant-première, vous l'avez entendu, a été annulée au dernier moment. Et bien malgré cela, Papicha devrait représenter son pays aux Oscars. La route vers les Oscars, évidemment, pour le meilleur film étranger est encore longue, très longue, puisque l'Académie des Oscars doit publier en décembre prochain ce qu'on appelle la shortlist des films en cours. Et puis en janvier 2020, la liste définitive des 5 films nominés pour ce fameux Oscar du meilleur film étranger. On vous en reparlera bien sûr dans nos prochaines éditions, certainement, de Bain de Culture.
سند بقبر نوسني سيالي الزيزين.
تحضير القوت وسنبقى روس تزيين ما ريت نذبر نوس تزيين الزيزين ميسيت حضير القوت وسنبقى روس تزيين تسلي في روز الطاد السلايتي جبادين يا لاش الزين ديد مغربة سنصار تقديمين سلي ذلك في روز الطاد السلايتي جبادين يا لاش الزين ديد مغربة سنصار تقديمين يا لا لا يا لا 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 درش الزين ديد مغار يا لا لا يا لا 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 سنصار تقديمين
avec Florence Blanc.
Dans cette édition de Bain de Culture, on va prendre la direction de Rabat où s'est ouverte l'exposition Trésors de l'Islam en Afrique. Imaginez un petit peu 13 siècles d'histoire qui nous emmènent de Tombouctou à Zanzibar. Un mélange d'art, d'archéologie, d'architecture, d'ethnographie avec plus de 250 œuvres. Évidemment, c'est foisonnant. Jack Lang, ex-ministre français de la Culture et actuel président en ce moment de l'Institut du Monde Arabe, Lima. Lima qui a contribué au lancement de cette exposition. Eh bien, Jack Lang était à l'inauguration. Ça s'est passé au Musée d'art contemporain de Rabat. Pour lui, c'est une façon de parler de paix et parler d'un islam de tolérance.
L'exposition montre un aspect de l'islam qui est souvent méconnu, le rôle joué par les marchands, les lettrés, allant de l'Arabie vers les pays d'Afrique. Ce rôle a été un rôle culturel éminent et s'est traduit en particulier dans l'architecture, dans l'écriture, dans toute une série d'expressions artistiques. C'est une exposition qui, pour la première fois, met en valeur les richesses, les trésors de l'islam africain. Je prends l'exemple, si vous voulez, de l'architecture. La mosquée de Géné au Mali est une pure splendeur. Les mosquées construites en Éthiopie sont des merveilles à nulle autre pareille. Partout à travers l'Afrique, l'islam a été synonyme de civilité, de rencontre et de création. Et je crois que c'est pour beaucoup une découverte. Et en même temps, c'est une manière aussi de renverser le regard qui a été longtemps porté par les pays du Nord sur l'Afrique. Trop longtemps, on a pu présenter l'Afrique comme étant un continent où la culture, à l'exception des arts primitifs, avait une place réduite. L'exposition que vous verrez, c'est une exposition qui montre l'exceptionnelle richesse de cette Afrique de l'islam.
Trésor de l'islam en Afrique, de Tombouctou à Zanzibar. Imaginez 13 siècles d'histoire. Cette exposition dure jusqu'au 25 janvier 2020, jusqu'à l'année prochaine. Ça se passe dans trois espaces. Le musée Mohamed VI d'art contemporain, la galerie Bab el Kebir et la galerie Babroua. Évidemment, c'est à Rabat. Je vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de nos programmes. C'est la fin de ce bain de culture. On se retrouve la semaine prochaine.
This was all you, none of it me. You put your hand